Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Alors, la partie qu'on m'avait demandé de préparer ce matin, c'est le thème de l'espérance. L'espérance chrétienne face à la maladie et la souffrance. Alors, il faut vous dire que quand j'ai eu ce thème, je me suis dit, ils sont gonflés de me filer un thème comme ça. C'est un peu comme attaquer la faciès de l'Everest sans cordée. C'est un peu casse-gueule quand même, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, on va dire, par rapport à nos vies, à nos existences et à tout ce à quoi on peut être effectivement confronté de difficile. Voilà. Donc c'est resté pendant plusieurs mois. Je disais à Jean-Claude, mais je vais pas y arriver, quoi, à traiter un thème pareil. Et puis il y a eu la maladie d'Anne, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place dans ma réflexion, dans ce que je vivais. Et les deux derniers mois, surtout de l'accompagnement de Anne. Alors ce matin, j'ai amené l'icône de Anne, en fait, la petite icône de la Trinité. C'est celle de Anne. Qu'elle avait reçue donc en mars 2005 à Anschalde. Voilà. C'était une manière de lui rendre témoignage et de dire que ce travail aussi, je l'ai mis en forme en pensant à elle et avec elle aussi. Voilà. Ouais, je vous disais, les deux derniers mois de l'accompagnement de Anne, ça a été vraiment compliqué, difficile. Et finalement, avec quelques lectures, les choses se sont éclairées. Je me suis dit, je dois quand même dire quelque chose sur ce sujet, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que je travaille dans la relation d'aide et en tant qu'éducateur spécialisé au départ, auprès des personnes handicapées, aujourd'hui auprès des personnes âgées vieillissantes, où on accompagne beaucoup de situations de fin de vie, etc. Et c'est vrai que je ne peux pas ne pas arriver à dire un mot sur ce sujet-là, quand même, qui est un sujet qui me concerne aussi au quotidien, quoi, dans les accompagnements qui sont en place aujourd'hui au Christ Roi, quoi. Voilà. Voilà. En fait, je vous ai mis le travail par écrit, parce que l'idée, c'est surtout qu'on puisse discuter, échanger. Vous n'hésitez pas à intervenir, à apporter votre éclairage, votre expérience, etc.
Plutôt après.
Enfin, comme vous voulez. Alors j'ai commencé par cette icône qui me parle beaucoup, parce qu'on voit effectivement le Christ avec la parole de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on revienne à la parole de Dieu comme point de départ. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. » J'aime beaucoup cette icône où on voit en fait c'est le Seigneur qui nous porte en fait et qui porte la personne malade. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. » J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Donc j'ai pris un extrait d'un discours que le pape François avait donné à des jeunes à Cracovie en 2016, à l'occasion de la célébration d'un chemin de croix. Où est Dieu si dans le monde il y a le mal, s'il y a des hommes qui ont faim, qui ont soif, sans toi, des déplacés, des réfugiés? Où est Dieu lorsque des personnes innocentes meurent à cause de la violence, du terrorisme, des guerres? Où est Dieu lorsque des maladies impitoyables rompent des liens de vie et d'affection? Ou bien lorsque les enfants sont exploités, humiliés, et qu'eux aussi souffrent à cause de graves pathologies? Où est Dieu face à l'inquiétude de ceux qui doutent et de ceux qui sont affligés dans l'âme? Il existe des interrogations auxquelles il n'y a pas de réponse humaine. Nous ne pouvons que regarder Jésus et l'interroger lui. Et voici la réponse de Jésus: Dieu est en eux. Jésus est en eux, il souffre en eux, profondément identifié à chacun. Il est si uni à eux, presque au point de former un seul corps. Et c'est un sentiment que moi j'ai souvent éprouvé quand on est au chevet des malades, en fait, ou des personnes qui souffrent, d'être vraiment dans un... On est convoqué dans la visite des malades, en fait, à une visite aussi au Seigneur qui est présent en eux, quoi. Il y a vraiment une réalité de la présence du Seigneur dans les personnes malades, souffrantes. Embrassant la croix, Jésus embrasse la nudité et la faim, la soif et la solitude, la douleur et la mort des hommes et des femmes de tous les temps. Il est difficile de regarder la souffrance sans être saisi par un sentiment d'absurdité. Partout dans le monde, la maladie, la détresse, l'injustice ou la mort semblent contredire l'idée d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. Comment concilier la foi en un Dieu d'amour avec le spectacle du mal et de la douleur humaine? Cette question, aussi ancienne que la foi elle-même, demeure une blessure ouverte dans la conscience croyante. Pourtant, la tradition chrétienne ne renonce pas à espérer. Elle découvre dans la lumière du Christ une espérance plus forte que le mal, non pas en niant la souffrance, mais en la traversant et en lui donnant sens. Le Christ est venu habiter la souffrance, mais il ne l'a pas expliquée. Il n'y a pas d'explication, seulement un constat. Il y a du mal et il peut prendre des dimensions vertigineuses. Le projet de compassion et de miséricorde du Christ se poursuit de nos jours à travers l'engagement de l'Église au service des plus pauvres, des malades et des plus fragiles. Dans son message pour la 33e journée mondiale du malade de l'année jubilaire 2025, où l'Église nous a invités à devenir des pèlerins d'espérance, le pape François nous renvoyait à la parole de Dieu dans Romains 5, où saint Paul nous dit « L'espérance ne déçoit pas ». Cette expression est consolante, mais elle peut soulever des questions, en particulier chez les personnes qui souffrent. Par exemple, comment rester fort lorsque nous sommes touchés dans notre chair par des maladies graves, invalidantes, qui nécessitent peut-être des soins dont les coûts sont au-dessus de nos moyens? Comment le rester quand, en plus de notre propre souffrance, nous voyons celle de ceux qui nous aiment et qui, tout en étant proches de nous, se sentent impuissants à nous aider? Nous ressentons dans ces circonstances le besoin d'un soutien plus grand. Nous avons besoin du secours de Dieu, de sa grâce, de sa providence, de cette force qu'est le don de son esprit. Le combat des malades et de ceux qui souffrent est un signe pour chacun, un hymne à la dignité humaine, un chant d'espérance. Bulle Spes non confundit, c'est la bulle d'introduction au jubilé de l'espérance de cette année, dont la voix va bien au-delà des chambres et des lits des établissements de soins. Donc là, je vous lis le plan de la réflexion pour vous dire un peu où est-ce qu'on va en fait. Donc l'idée, c'est de revenir à l'attitude du Christ face à la souffrance et sa victoire sur elle. Donc on verra déjà, on parlait hier du concile de Chalcédoine, il me semble, hier. On reviendra sur une notion qui avait été définie à l'occasion de ce concile-là, qui définissait la nature humaine et divine du Christ, le principe d'impassibilité. On parlera de l'assomption volontaire de la souffrance par le Christ, c'est-à-dire l'accueil que le Christ a fait de la souffrance pour nous conduire jusqu'à Dieu. L'attitude du Christ vis-à-vis de la souffrance, le Christ qui ne fuit pas la souffrance, il l'accueille avec lucidité et vérité. Il vit la souffrance dans la foi et l'obéissance. Il transforme la souffrance en amour et en don de soi. Il demeure dans la paix et la douceur. Il ouvre la souffrance à la résurrection. On essaiera de mettre en perspective l'attitude du Christ pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, effectivement, un disciple de Jésus se mettre à son école, accueillir la souffrance sans s'y enfermer, faire de la souffrance un lieu de relation, ne pas donner la première place à la douleur mais à l'amour, transformer la douleur en compassion, espérer au cœur même de l'épreuve. On prendra un troisième point qui pour moi est fondamental, qui est très important de clarifier en tant que croyant. La volonté du Christ est que les hommes ne souffrent plus. Le but du Christ est que la souffrance soit abolie et que finalement les hommes ne souffrent plus. Le Christ a donné des arts de l'abolition de la souffrance dans le royaume des cieux, en les soulageant de leur souffrance et en soulageant ceux qui venaient à lui. Soulager, guérir, relever, les gestes de Dieu fait homme. Les miracles comme signe du royaume en gestation. Le soulagement des souffrances, révélation de la tendresse divine. Le Christ ressuscité, l'accomplissement de la promesse. Et pour aujourd'hui, vivre de César. On verra que soulager les hommes de leur souffrance, c'est une dimension essentielle de la charité chrétienne. La charité chrétienne, l'amour actif de Dieu au cœur du monde. Soulager la souffrance, c'est rendre présent le visage de Dieu. Et l'amour chrétien ne s'arrête pas à la compassion, il devient espérance pour l'autre. Et là, ça me vient à l'esprit aussi que c'est un propos qui peut être complété par la première exhortation apostolique là, du pape Léon, d'illexité, qui est vraiment un rappel de l'option préférentielle pour les pauvres et de vraiment nous inciter à lutter contre toutes les formes de misère. Donc vraiment, la charité, c'est pas une option dans la foi, ça va vraiment avec, et c'est principalement là où le Seigneur s'est manifesté, justement. Et pour terminer, quatre petites réflexions sur les quatre visages de l'espérance chrétienne dans la souffrance. La dimension de communion, la souffrance partagée comme lieu d'unité du corps du Christ. La dimension de témoignage, la souffrance comme parole silencieuse d'espérance. Et la dimension intérieure, la souffrance comme passage vers l'unité du cœur. Et le dernier point, la dimension eucharistique, la souffrance unie au Christ devient offrande. Bon, vous comprenez que c'était compliqué de dire ça en quatre phrases. Mais bon, puisqu'on a choisi un sujet difficile. Bon. Donc, c'est forcément partiel tout ce que je vais évoquer, tout ce que je dis. Ça peut être que complété par votre propre témoignage et votre propre expérience, en fait, quoi. Et l'expérience de chacun. Et la foi de chacun. Alors, on va revenir sur quelle est l'attitude du Christ face à la souffrance et sa victoire sur elle. L'attitude du Christ face à la souffrance est essentielle pour définir, la façon dont le disciple doit la considérer, ou devrait la considérer. Cette attitude doit être envisagée d'un double point de vue. Celui de la souffrance à laquelle il a lui-même dû faire face, notamment lors de sa passion, et celui de l'attitude devant la souffrance des hommes, en premier lieu de ceux qui entraient en relation avec lui. Alors c'est là où on commence avec quelque chose d'un peu technique, hein. Moi qui n'ai pas fait de théologie, c'était le truc un peu... Mais c'était la base en fait pour essayer de comprendre. L'impassibilité de principe de la nature humaine du Christ, en référence donc au concile de Chalcédoine en 451. Dans la pensée patristique, notamment en référence aux réflexions théologiques de saint Maxime le Confesseur, le Christ en sa nature humaine aurait pu échapper à toute souffrance. Le Christ est une seule personne, ce qu'on appelle l'hypostase, en deux natures, sa nature divine et sa nature humaine. Cela signifie qu'en tant que Dieu, le Christ est impassible, éternel, immuable, et en tant qu'homme, il est passible, c'est-à-dire qu'il est capable de souffrir, d'éprouver la faim, la fatigue, la douleur, la mort. Autrement dit, Jésus souffre réellement, mais sa souffrance n'est pas dominée par la passion au sens humain du terme. La colère, la peur, le désespoir, son humanité est impassible moralement et spirituellement. Il assume nos faiblesses librement et par amour, non par contrainte. Alors, toutes ces références-là sur cette première partie, j'en avais parlé à Jean-Claude. J'ai recherché les bouquins de Jean-Claude Larcher, qui est un théologien orthodoxe et qui a beaucoup écrit sur l'espérance chrétienne face à la maladie, la souffrance, etc. Donc ça vient des bouquins de Larcher, ça. L'assomption volontaire de la souffrance par le Christ. Le mot assomption vient du latin assumere, qui signifie prendre sur soi, revêtir, accueillir volontairement. En s'incarnant, le Fils de Dieu assume la condition humaine entière, la naissance, la croissance, la fatigue, la souffrance, la mort, afin de les traverser et de les diviniser de l'intérieur. Le mot volontaire souligne un point essentiel. Le Christ ne subit pas la souffrance comme un destin aveugle, mais il la choisit librement, par amour, pour le salut du monde. Ce n'est pas une résignation, mais un acte de liberté souveraine. Il entre dans la passion en obéissance au Père, non par contrainte. Ma vue, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ça me fait penser, là... Excusez-moi, je fais des apartés, mais c'est pour qu'on... On essaye. Je ne sais pas si vous avez vu Chosen, là, la série américaine qui a un succès fou sur Jésus, etc. et tout. Et il y a un épisode où il est à la... Vous savez, quand il va à la synagogue de Capharnaüm, où il va ouvrir le rouleau des Écritures, et donc, en fait, il donne la prophétie d'Isaïe, il annonce, en fait, une année de bienfaits, etc., etc. Et on voit, donc, ensuite, il y a le chef de synagogue, etc. Ils veulent le lapider, vous savez, il l'amène à un escarpement de la montagne. Donc, en fait, on dit, ça y est, il est cerné, ils sont tous autour de lui, il y a toute la violence et tout qui conduit à la volonté de l'exécuter. Et on voit vraiment que son heure n'est pas venue. En fait, il passe au milieu d'eux. Et l'Évangile nous le dit, mais quand on voit le film, c'est encore plus manifeste. Il est vraiment maître de ce qui se passe, en fait. Il subit pas, quand même. Alors, il subit la violence, les injures, le rejet, mais il en reste maître. Et donc, c'est vraiment un acte de liberté et d'amour qui le conduit à entrer ensuite, effectivement, dans l'acceptation du sacrifice de sa vie. Donc c'est important parce que ça veut dire que l'assomption volontaire n'est pas un masochisme sacré, contrairement à certaines idéologies qui ont prévalu dans l'Église. Jésus ne cherche pas la douleur pour elle-même, mais il accepte de la vivre jusqu'au bout, afin d'y faire briller la lumière de l'amour. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas ma volonté mais la tienne. Ce verset dans Saint-Luc exprime toute la tension du mystère. Jésus éprouve la peur et la douleur de l'homme, mais il choisit d'aimer jusqu'au bout, de rester fidèle à la volonté du Père. Par cette assomption volontaire, la souffrance devient participation au salut du monde, manifestation de l'amour divin, chemin de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Ainsi, en assumant notre souffrance, le Christ l'a désarmée. Il ne supprime pas la souffrance, mais il en change le sens. Elle devient le lieu du passage vers la résurrection. L'assomption volontaire de la souffrance par le Christ signifie donc que Jésus, librement et par amour, a choisi de prendre sur lui la condition humaine, jusque dans la douleur et la mort, non pour subir, mais pour transformer la souffrance en lieu de salut, de pardon et de vie. Alors, si on essaye de scruter un petit peu les Écritures et de poser notre regard sur le Christ dans les Évangiles. Le Christ ne fuit pas la souffrance, il l'accueille avec lucidité et vérité. Il ne nie pas la réalité de la souffrance, il en fait pleinement l'expérience humaine. On se souvient, il pleure devant la mort de son ami Lazare. Il éprouve l'angoisse à Gethsémani. Il crie sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais jamais il ne se révolte contre le Père, ni ne s'enferme dans le désespoir. Son attitude n'est pas la fuite, mais l'accueil lucide et confiant. Il accepte d'entrer dans la souffrance sans en être dominé. Deuxième point, il vit la souffrance dans la foi et l'obéissance. L'attitude du Christ est marquée par une confiance absolue. Toujours dans Saint-Luc, non pas ma volonté, mais la tienne. Il manifeste ainsi que la foi n'est pas d'abord une assurance d'être épargné, mais une adhésion aimante à la volonté du Père, même dans la nuit. Ça, je trouve ça aussi un enseignement très fort pour nous. Enfin, à certains moments, il faut qu'on fasse preuve de lucidité quand même. La foi, ce n'est pas une gourmandise, hein, une sucrerie réservée à de doux rêveurs. Hein. La preuve, c'est que le salut passe par la croix. Enfin, c'est un peu tout ce qu'on dit là. Donc effectivement, il y a quand même une lucidité sur cette acceptation de la souffrance. Mais il y a quand même le Seigneur qui nous montre ce chemin de confiance et d'abandon, en fait. Une adhésion aimante à la volonté du Père. Cette obéissance filiale donne un sens nouveau à la souffrance. Elle devient un lieu de communion plutôt que de séparation. Alors, autre point, le Seigneur transforme la souffrance en amour et en don de soi. Donc le Christ ne subit pas la douleur comme une fatalité, mais il l'a convertie en acte d'amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, dans Saint Jean. Et nous avons là la clé spirituelle. Jésus donne un sens pascal à la souffrance. Il la transfigure en offrande, en service, en pardon. Sur la croix, il va jusqu'à prier pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur. » Ainsi, la souffrance cesse d'être destruction. Elle devient un chemin de fécondité et de révélation de l'amour divin. Autre attitude qu'on peut contempler du Seigneur dans l'Évangile, il demeure dans la paix et la douceur. Même au cœur de la passion, le Christ garde une attitude intérieure de paix. Il ne répond pas à la violence par la violence. Il garde le silence devant Pilate. Il confie tout à Dieu. Cette douceur dans l'épreuve manifeste son impassibilité spirituelle. Il souffre mais sans haine ni révolte. Son attitude enseigne que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise intérieure et la confiance absolue. Il va jusqu'à solidariser sa souffrance avec celle de toute l'humanité. En souffrant, le Christ rejoint l'homme dans son abîme de douleur. Dans Saint Matthieu, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il ne souffre pas à côté de nous, mais avec nous et pour nous. Ainsi, toute souffrance humaine peut désormais devenir un lieu de rencontre avec lui, un espace où l'amour divin se manifeste jusque dans la fragilité. Je vais vous dire un petit témoignage d'une parole que Anne a dit la veille où elle est rentrée à la clinique Pasteur. Donc en fait, c'était un dimanche soir. Le lundi, elle partait en soins palliatifs à Pasteur. Et on avait demandé à des aides à domicile de s'occuper d'elle, de l'aider à aller au lit. Elle était alitée, en fait, hein, les derniers jours. Et donc, il y a Véronique, une amie, qui est une auxiliaire de vie, qui vient tous les soirs sur l'établissement, qui, ce soir-là, s'occupait d'Anne. Donc, moi, j'étais passé aussi. Jean-Claude l'avait aidé à préparer sa valise. Enfin, bon, voilà, on était dans ce contexte-là. Et donc, Véronique, qui est très émotive, était avec Anne. Anne était très, très forte, hein, dans tout ce qu'elle a traversé. Et donc, elle a regardé Véronique et elle a dit à Véronique, parce que Véronique lui dit, vous souffrez, etc. Elle regarde, elle avait l'icône du visage de Saint-Damien, vous savez, du Christ de Saint-Damien, là, au-dessus de son armoire. Elle lui a dit, pas autant que lui, elle lui a fait. C'est de ça dont on parle là, de cette communion, en fait. En fait, c'est un espace de communion qui s'ouvre dans la foi au Christ. Il ouvre la souffrance à la résurrection. Enfin, l'attitude du Christ face à la souffrance est fondamentalement espérante. La croix n'est pas un terme, mais un passage. Il révèle que la souffrance n'a pas le dernier mot, que la vie triomphe du mal et de la mort, que l'amour sort victorieux de la douleur. C'est pourquoi le chrétien n'est pas invité à fuir la souffrance, mais à la vivre dans l'union au Christ, dans la certitude qu'elle peut être transfigurée en lumière. Alors, moi, je vous avoue que je suis le premier à vouloir fuir la souffrance. Donc, dernier témoignage en date. On a un résident, un monsieur adorable, très gentil, bienveillant, vraiment une très belle figure d'humanité, de sagesse humaine, etc., qui était en dialyse là depuis 3 ans, et c'est devenu tellement insupportable qu'il a fait le choix d'arrêter la dialyse. Quand on arrête la dialyse, ça veut dire que très rapidement, en fait, sans la fonction rénale, on ne vit plus, en fait. Voilà. Et donc, il est rentré à Saint-Exupéry, une clinique qui est à côté. Et donc, ça faisait 10 jours. On me disait, il faut que tu y ailles, parce qu'en soins palliatifs, ils vont tout faire pour qu'ils ne souffrent pas. Et vous savez que quand ils commencent à sédater les gens s'en vont après. Quoi. C'est une façon d'aider à partir, quoi. Voilà. Et vraiment... Il y a beaucoup de départs hein, dans une maison de retraite. Donc, au bout d'un moment, ça devient un peu oppressant. Quoi. Et j'ai vraiment prié l'Esprit Saint. Je disais, mais en plus, qu'est-ce que je vais lui dire? En fait, je suis super mal en ce moment par rapport à toutes ces questions, la question de la séparation, etc. Et, tout, quoi. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, et puis, j'y suis allé. Et en fait, cette rencontre, elle a été lumineuse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était le Seigneur qui me conduisait à visiter cette personne, ce frère malade, en fait, souffrant. Et je pense que vous l'avez tous fait, là, l'expérience, d'avoir d'abord un combat, de prendre sur nous, de le confier au Seigneur. Et quand on le confie dans la foi au Seigneur, en fait, la visite au malade, quelque part, il y a... Je ne sais pas si je dis une bêtise, mais il y a une manifestation du divin aussi. Il y a une épiphanie, il y a quelque chose qui nous dépasse, en fait, au-delà de ce que porte le malade lui-même, et voilà. Et de cette rencontre, ben voilà, c'est... Moi, j'étais super heureux d'être allé le voir, du coup, voilà. Mais donc, c'est pour ça que cette phrase me parle. Le chrétien n'est pas invité à fuir la souffrance, mais à la vivre dans l'union au Christ. C'est fondamental, quoi. Et donc aussi, une invitation à ne pas nous détourner de nos frères et sœurs malades, à ne pas nous détourner notre regard. Ça, c'est aussi un peu peut-être l'expérience, on peut la rapprocher de François et du lépreux. Hein. Il y a quelque chose qui s'est révélé en lui, justement. Il est passé au-delà de sa répulsion, de la répulsion qu'il avait pour la maladie, pour la souffrance du frère lépreux, etc. Quoi. Alors du coup, si on essaye de mettre en perspective l'attitude du Christ face à la souffrance, qu'est-ce que ça peut nous enseigner pour nous aujourd'hui? Accueillir la souffrance sans s'y enfermer. Le Christ nous apprend d'abord à ne pas fuir la souffrance ni à la nier. Il la regarde en face, il la traverse, mais il ne s'y identifie pas. Il nous dit « Mon âme est triste à en mourir » dans Matthieu. Cette parole ouvre la voie à une attitude profondément humaine, celle d'admettre la douleur, la fatigue, la peur sans honte. Mais en même temps, le Christ montre qu'il est possible de vivre la souffrance sans se laisser engloutir par elle, parce qu'il garde le regard tourné vers le Père. Cela nous invite à accueillir nos fragilités ou celles des autres dans la vérité et dans la confiance sans nous y perdre. Deuxième attitude, faire de la souffrance un lieu de relation. Dans la Passion, Jésus ne se replie pas sur lui-même. Il parle au Père. Il pense à sa mère. Il pardonne à ses bourreaux. Sa souffrance devient l'espace d'une relation intensifiée. Relation d'amour avec le Père, relation de compassion avec l'humanité, relation de pardon avec ses ennemis. Là où la souffrance isole, lui crée du lien. Pour nous aujourd'hui, cela signifie que la souffrance peut devenir un lieu de communion, non pas d'exclusion ou de solitude. Lorsque nous portons ensemble la douleur, elle devient plus légère, plus vivable, plus vivante. Troisième attitude, ne pas donner la place à la douleur mais à l'amour. Le Christ, donc on l'a dit, ne glorifie pas la souffrance, il glorifie l'amour qui s'y révèle. Alors ça c'est une phrase aussi très forte, ce n'est pas la croix qui sauve mais l'amour du Christ sur la croix. Je ne sais pas si on entend toujours ça en fait. L'amour du Christ sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est l'amour du Christ en croix qui offre sa vie pour le monde, qui nous sauve en fait. Pour faire simple et parler par antithèse, si le Christ ne nous avait pas aimés, je ne suis pas sûr qu'il ait choisi la croix. Donc c'est vraiment l'amour qui nous sauve en fait, qui a été source de salut. Dans nos vies, cela signifie que la souffrance n'a pas de valeur en soi. Mais elle peut devenir féconde si elle est vécue dans l'amour, le service, la fidélité. Ainsi, même une épreuve peut devenir source de lumière si elle est vécue comme un don. En ce sens, moi, ça m'éclaire aussi dans ma pratique, c'est-à-dire la souffrance nous convoque à l'action. Il n'y a rien de pire que l'indifférence pour moi. Dans la Bible, il est dit « Dieu vomit les tièdes », mais l'indifférence à la souffrance, pour moi, c'est un grave péché. Donc, en fait, on est invité à être une église militante, militante dans le sens de « on ne peut pas accepter la misère, on ne peut pas... » C'est pour ça que je pensais à Dilexité tout à l'heure, j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas fini, mais c'est très fort, c'est vraiment au-delà des termes un peu peut-être qui peuvent nous choquer parce qu'on reparle de l'option préférentielle des pauvres et que ça renvoie à des théories sur tout ce qui était la théologie de la libération, etc. Il y a vraiment un combat à bien situer qui nous engage chrétiens à être d'abord des militants. Les disciples, c'est des militants qui vont vraiment... Enfin, moi, je le reçois comme ça, en tout cas, dans l'appel que j'ai, dans mon travail, etc., à soulager la souffrance. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à Padre Pio, qui est un ami de la famille franciscaine. Une de ses œuvres magistrales, c'est ce fameux hôpital. Vous vous souvenez, Padre Pio, qui était quand même une grande figure mystique, il n'a eu de cesse toute sa vie de collecter des fonds pour, en fait, construire un hôpital qui, je crois, en italien, c'est le soulagement
de la souffrance.
Le soulagement de la souffrance. Bah, tout est dit, quoi. Donc il y a vraiment un combat devant lequel on ne peut pas se dérober, quoi. Transformer la douleur en compassion. Celui qui a souffert sans haine devient capable de comprendre et d'aimer plus profondément. Le Christ, ayant connu la souffrance humaine jusque dans sa chair, rejoint chacun dans son épreuve. C'est par ses blessures que nous sommes guéris, dans Isaïe. L'expérience de la souffrance peut alors ouvrir le cœur à la compassion, rendre plus attentif à la fragilité d'autrui, humaniser notre regard. C'est ainsi que beaucoup de personnes malades, âgées ou marquées par la perte deviennent paradoxalement des témoins d'espérance, des lieux de grâce silencieuse où se reflète la paix du Christ. Alors ça aussi, je l'ai souvent vu à Saint-Augustin. Je pense à un prêtre qui était le doyen des prêtres, le père Joseph Pradier, qui a terminé ses jours à 103 ans. Et en fait, il était vraiment resté Bon, il était de plus en plus diminué, dépendant, etc. Il était... Et je ne sais pas comment vous dire, mais en fait, il a tiré tout le monde à lui. Déjà parce qu'il était... Ben bon, on ne veut pas le déclarer saint avant qu'il soit canonisé. Mais je crois que dans sa relation confiante qu'il avait, dans son union au Seigneur, il rayonnait d'une paix et c'était vraiment une bénédiction pour tout le monde. C'était une bénédiction d'aller saluer le père Pradier, d'aller dire bonjour au père Joseph le matin. Et pourtant, il faisait rien d'extraordinaire. À la fin, il sortait même plus de son appartement. Il était sur son lit. Mais même des gens dans le personnel, qui, parce qu'il n'y a pas que des pratiquants militants quand même dans l'équipe, là, c'était vraiment une consolation, une bénédiction d'aller le visiter, d'aller le voir. Voilà. Il vous disait juste une parole, un sourire, mais ça suffisait. Alors, espérez au cœur même de l'épreuve. En fait, le Christ nous enseigne l'espérance dans la nuit. La souffrance ne disparaît pas par miracle, mais elle est traversée par la promesse. Le troisième jour, il ressuscitera. Cette certitude transforme l'épreuve en chemin de passage, pas en impasse. L'espérance ne nie pas la douleur, mais elle ouvre une perspective, celle d'une vie plus grande, d'un sens que seul l'amour peut dévoiler. C'est pourquoi le chrétien, même dans la souffrance, peut demeurer dans la paix, non pas une paix d'insensibilité, mais une paix habitée. Le Christ ne supprime pas la souffrance du monde, mais il lui ôte le pouvoir de nous séparer de Dieu. En lui, la souffrance devient passage, la croix devient seuil, et la faiblesse devient le lieu de la révélation de l'amour. Si je suis trop long, je vais plus vite, hein, je sais pas. On peut résumer aussi. Hein. Bon, l'autre partie, ça pour moi, c'était vraiment important aussi de le clarifier dans mon esprit et de vous le partager. La volonté du Christ est que les hommes ne souffrent plus. Le but du Christ est que la souffrance soit abolie et que finalement les hommes ne souffrent plus. Dans Saint Maxime le Confesseur, c'est des citations que j'ai trouvées chez Jean-Claude Larcher, là, le prêtre orthodoxe. « Celui qui a créé l'homme devient homme et né comme un homme pour sauver l'homme. Et il se fait lui-même patient, c'est-à-dire assume nos passions naturelles, dont la souffrance, pour guérir nos passions par sa passion. » Il est essentiel de comprendre que Jésus n'est pas venu sacraliser la souffrance, mais pour en libérer l'humanité. Dès les premiers gestes publics, l'Évangile le montre. Il guérit les malades, il console les affligés, il rend la vue aux aveugles, la marche aux boiteux, il relève les pécheurs et il pardonne. Ces signes ne sont pas seulement des miracles ponctuels. Ils révèlent le sens profond de sa mission, restaurer l'homme dans sa plénitude, abolir les conséquences du mal, et donc de la souffrance, de la séparation, de la mort. Ainsi, toute l'action de Jésus tend vers la libération. Il ne veut pas que l'homme souffre, il veut qu'il vive pleinement. D'où ce constat, la souffrance n'est pas voulue par Dieu, elle est la conséquence du mal. Dans la perspective biblique, la souffrance n'appartient pas au dessein originel de Dieu. Elle entre dans l'histoire à travers la rupture du lien avec Dieu, c'est-à-dire le péché et ses effets, la peur, la culpabilité, la maladie, la mort. Le Christ vient réconcilier ce qui a été brisé, restaurer la communion première entre Dieu et l'homme. Dans sagesse, on entend, Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Ainsi, abolir la souffrance pour le Christ ne signifie pas supprimer la douleur physique, mais détruire la racine du mal qui engendre la souffrance, la séparation, l'égoïsme, le péché, la mort intérieure. Dans Apocalypse, qu'on a entendu ce matin, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce verset de l'Apocalypse exprime le but ultime du Christ. Non pas que les hommes apprennent à supporter la souffrance, mais qu'ils en soient délivrés définitivement. Dans le royaume de Dieu, la souffrance est abolie parce que le mal est vaincu. L'humanité est enfin réconciliée avec elle-même, avec Dieu et avec la création. Alors peut-être qu'il faut nuancer le propos. Là, je suis allé vraiment m'inspirer de la théologie patristique, en fait, orthodoxe. Peut-être que dans la théologie de Saint-Augustin, les choses sont peut-être exprimées un peu différemment. Bon, enfin, moi, celle-là, théologie, me va bien. Le Christ a donné des arts de l'abolition de la souffrance dans le royaume des cieux, en soulageant de leur souffrance ceux qui venaient à lui. Le Christ, par ses guérisons et sa compassion, manifeste déjà dans ce monde les arts, c'est-à-dire l'avant-goût de la promesse réelle, du royaume où toute souffrance sera abolie. Ah, vous avez vu, je vous ai mis des petits cœurs, parce que c'est important. Soulager, guérir, relever, les gestes de Dieu fait homme. L'Évangile nous montre un Christ ému de compassion. Son attitude n'est jamais celle du philosophe stoïcien face à la douleur. Elle est celle de Dieu qui s'incline devant la détresse humaine. Et là, on peut réentendre les paroles d'Évangile. Il vit la foule, il fut saisi de compassion pour elle dans Matthieu. Il toucha les yeux des aveugles et ils virent, toujours dans Matthieu. Et dans Marc, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et marche. À chaque fois qu'il touche, qu'il pardonne, qu'il relève, Jésus rompt le cercle du mal et de la douleur. Il recrée l'homme dans son intégrité, dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Ces gestes concrets sont donc des arts de la guérison totale. Ils annoncent que dans le royaume, rien de ce qui fait souffrir ne subsistera. Ils donnent à voir ce que sera le monde transfiguré, où les larmes seront essuyées et la mort ne sera plus. Les miracles de Jésus sont comme des signes du royaume en gestation. Les miracles de Jésus ne sont pas des exceptions arbitraires aux lois de la nature. Ils sont les signes que la nature elle-même est appelée à être restaurée. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Chaque miracle est une pierre d'attente du royaume, une graine de la résurrection semée dans la terre de la souffrance. Ainsi, lorsque Jésus rend la vue, il annonce la lumière éternelle. Lorsqu'il relève un mort, il annonce la vie impérissable. Lorsqu'il apaise la tempête, il révèle la paix cosmique du monde réconcilié. Dans le Christ, la fin de la souffrance n'est pas une idée, elle est déjà commencée dans l'histoire. Le soulagement des souffrances, c'est aussi une image de la révélation de la tendresse divine. Jésus ne se contente pas de prêcher la joie du royaume, il la rend tangible par ses gestes, à travers sa main posée sur le malade. Dieu touche la chair blessée de l'homme. Toujours dans Matthieu, il prit nos infirmités, il se chargea de nos maladies. Chaque fois qu'un homme ou une femme est relevé de sa peine, c'est le royaume qui se fait proche. Ce n'est pas encore l'abolition totale de la souffrance, mais c'en est l'annonce réelle et sensible, comme une lumière qui se lève avant l'aube. Le Christ ressuscité, accomplissement de la promesse. La résurrection du Christ est le sceau définitif de cette promesse. En lui, la douleur a perdu sa puissance de mort. Son corps glorieux, portant encore les marques des clous, témoigne que la souffrance n'est pas niée, mais transfigurée en gloire et en paix. Ainsi, les arts que le Christ a donnés pendant sa vie terrestre trouvent leur plénitude dans la vie ressuscitée et s'étendront à toute l'humanité dans le royaume. Dans l'Apocalypse, voici que je fais toute chose nouvelle. Pour aujourd'hui, vivre de César. César, le Christ, les continue dans son corps vivant qui est l'Église. Chaque geste de soin, de consolation, d'écoute, chaque larme essuyée, chaque main tendue est une participation à son œuvre de libération. Quand nous soulageons la peine de notre, nous prolongeons les arts du Christ dans le monde. Nous faisons déjà respirer le royaume, même au cœur de la souffrance. Bon, si vous voulez, là, je peux passer plus vite, hein, parce qu'en fait, c'est une méditation toujours du même problème sous ses différentes facettes, quoi. Soulager les hommes de leurs facettes, une dimension essentielle de la charité chrétienne. La charité chrétienne, encore une fois, c'est pas une option. L'amour actif de Dieu au cœur du monde. La charité, dans son sens évangélique, n'est pas seulement une émotion ou un élan de bonté. Elle est la participation même à l'amour de Dieu qui se donne pour la vie du monde. Dans Saint Jean, le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ainsi, le chrétien appelé à la charité ne peut pas séparer l'amour spirituel tourné vers Dieu et l'amour concret tourné vers les frères. Soulager la souffrance, c'est rendre visible cet amour qui prend soin, qui répare, qui relève, un amour à l'image du Christ. Soulager la souffrance, c'est rendre présent le visage de Dieu. Chaque fois que nous apaisons la douleur de notre, nous participons à l'œuvre même du Christ, lui qui a pris sur lui nos blessures et nos peines. Jésus nous dit, on l'entendait dans la parole au début de ce petit travail, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Et il nous dit aussi « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». Ça, c'est vraiment une parole centrale pour moi dans la mise en acte de notre foi. Soulager la souffrance n'est donc pas un simple devoir moral, c'est un acte de communion. C'est reconnaître dans l'autre souffrant la présence du Christ et se faire pour lui instrument de miséricorde. L'amour devient un acte de foi en la dignité de toute personne et une proclamation silencieuse du royaume qui vient. En ce sens, la charité chrétienne est inséparable de l'espérance. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme fragile. Elle est la certitude intérieure que la vie triomphera de la mort. Elle nous fait croire que toute souffrance peut être traversée et transformée. Car Saint Paul nous dit « l'amour espère tout ». Ainsi, la souffrance ne consiste pas seulement à rendre la vie plus supportable, mais à signifier par nos gestes que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Chaque soin, chaque présence fraternelle, chaque acte de miséricorde est une anticipation du royaume, une prophétie de résurrection au cœur du monde. C'est pourquoi la charité porte en elle l'espérance. Elle agit non seulement pour soulager, mais pour annoncer la victoire de la vie sur la douleur. Soulager, c'est croire que la rédemption agit déjà. Dans le mystère du Christ, la rédemption n'est pas seulement une promesse future, elle commence dès maintenant dans nos gestes de bonté. Quand nous visitons un malade, écoutons un cœur brisé ou rendons la dignité à celui qui souffre, nous continuons nous-mêmes les gestes du Christ. Nous prolongeons dans l'histoire ces arts, cet avant-goût du royaume dont nous parlions plus haut, les signes de cette humanité réconciliée où Dieu essuiera toutes larmes. Ainsi, soulager la souffrance, c'est agir dans l'espérance, non pas comme si nous remplacions Dieu, mais comme si nous en hâtions la promesse. Enfin, l'amour chrétien ne s'arrête pas à la compassion, il devient espérance pour l'autre. La charité authentique ne se contente pas de compatir à la douleur. Elle porte l'espérance pour celui qui n'en a plus. Portez les fardeaux les uns des autres, nous dit l'apôtre dans Galates. Soulager, consoler, accompagner, ce n'est pas nier la souffrance, mais refuser de la laisser seule. C'est y faire entrer une présence, une lumière, une paix. C'est affirmer dans la foi que le dernier mot n'appartient pas à la douleur, mais à l'amour qui demeure. Ainsi, la charité chrétienne n'est pas simple bienveillance, elle est espérance agissante, foi en un monde déjà en voie de guérison, et anticipation de la fin de toute souffrance dans le royaume. Alors, pour terminer, les quatre visages de l'espérance chrétienne dans la souffrance. En fait, nous avons exploré trois axes essentiels. La dimension christologique, le Christ assume et transforme la souffrance. La dimension éthique et spirituelle, soulager la souffrance comme expression de la charité. Et la dimension eschatologique, l'espérance du royaume où la souffrance sera abolie. Mais il existe d'autres lumières, plus discrètes, souvent oubliées, qui complètent cette vision. La première, c'est la dimension de communion. La souffrance partagée comme lieu d'unité du corps du Christ. Dans 1 Colossiens 12, Saint Paul nous dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». L'espérance chrétienne ne se vit pas dans la solitude héroïque, mais dans la communion des croyants qui est l'Église. La souffrance d'un seul n'est jamais perdue. Elle devient prière vivante, offrande commune, solidarité invisible. Chaque malade, chaque personne éprouvée, participe mystérieusement à la vie du corps du Christ, non comme une victime inutile, mais comme un membre précieux par lequel le monde continue d'être sauvé. Cette dimension communautaire transforme la souffrance. Elle n'est plus seulement un point individuel, mais elle devient un lien de fraternité spirituelle, une offrande partagée. La dimension du témoignage, la souffrance comme parole silencieuse d'espérance. Il existe un témoignage de la fragilité, celui de l'homme ou de la femme qui, dans la maladie, continue de croire, d'aimer, de sourire. Ce témoignage ne prêche pas, mais il illumine. Dans 2 Colossiens, « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. » La foi vécue dans la souffrance a une force évangélique immense. Elle révèle que la dignité de la personne ne dépend ni de sa santé ni de sa réussite, mais de la présence de Dieu en elle. Ainsi, la maladie peut devenir lieu d'évangélisation silencieuse, un témoignage de l'espérance vécue, plus fort que tous les discours. La dimension intérieure, la souffrance comme passage vers l'unification du cœur. La maladie vécue dans la foi n'est pas seulement une épreuve à supporter, elle peut devenir un lieu de purification intérieure. Comme l'or est éprouvé au feu, ainsi l'homme dans sa souffrance, dans la souffrance. Elle révèle la vérité du cœur, ce qui reste quand tout est dépouillé, quand les forces humaines s'effacent. L'espérance chrétienne ne promet pas d'éviter cette traversée, mais d'y trouver la présence secrète de Dieu, celle qui ne s'impose pas, mais qui habite doucement la pauvreté. Ici, la souffrance devient un lieu d'intimité spirituelle, une lente unification de l'être, un passage du faire au être, de la peur à la confiance. Enfin, la dimension eucharistique. La souffrance unie au Christ devient offrande. L'espérance chrétienne voit dans la souffrance une possible participation à la passion du Christ, non pour la subir, mais pour l'unir librement à son offrande d'amour. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Colossiens, « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps qui est l'Église. » Ce verset ne signifie pas que la passion du Christ serait incomplète, mais que chaque vie humaine peut être associée à son œuvre rédemptrice. Ainsi, la souffrance offerte dans la foi devient eucharistique. Elle s'unit au don du Christ. Elle s'inscrit dans le mouvement du corps livré et du sang versé pour la multitude. L'espérance se nourrit alors non d'un espoir terrestre, mais d'une union mystique, celle d'un amour qui, même dans la douleur, rejoint la joie de Dieu. On peut peut-être, en guise de conclusion, lire cette méditation. Dans la lumière du Christ, la souffrance n'est jamais un désert sans issue. Elle devient parfois cri, parfois silence, mais toujours lieu d'une rencontre. L'espérance chrétienne ne supprime pas la douleur. Elle l'habite d'une présence, la relie à d'autres, la transfigure en offrande et la tourne vers la joie du royaume. C'est là, dans cette fidélité au cœur de la nuit, que s'enracine la plus pure charité, celle qui croit encore que la vie aura le dernier mot. Et je vous ai mis un petit peu tous les bouquins qui m'ont beaucoup aidé. Alors, j'ai beaucoup aimé de Bernard Hugeux, La compassion, j'y crois. Qui rend un témoignage par rapport à toutes les œuvres qu'il mène. Voilà, Jean-Claude Larcher.